Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours MVA sur les fondamentaux C#. Nous en sommes au 10e cours et aujourd'hui, nous allons attaquer quelque chose d'extrêmement important en programmation, c'est le concept de classe et d'objet. C'est quelque chose qui est fondamental en programmation C#. On dit qu'avec .NET, tout est objet. C'est ce qu'on appelle la programmation orientée objet et c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre et sur laquelle il faut que vous vous familiarisez. Pour être très honnête, depuis le début, depuis le premier module, on fait déjà de la programmation orientée objet sans vraiment s'en être rendu compte. Mais il faut savoir que chaque fois que vous manipulez quelque chose en programmation C#, eh bien quelque part, vous manipulez ce qu'on appelle un objet. Alors si je reprends un petit peu mon bloc-notes ici, donc nous allons attaquer le 10e chapitre. Et c'est le... Nous allons regarder ce que c'est qu'une classe, ce que c'est qu'un objet, ce que c'est qu'une instance. On verra un petit peu comment faire pour affecter des propriétés et des méthodes. Bien. On va aborder tout ça par l'exemple. Donc ce que je vais faire, je vais prendre directement ici mon Visual Studio dans lequel j'ai ici comme d'habitude une application console. Alors, créer une classe, c'est d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que dans le framework .NET, depuis le départ, eh bien, on utilise déjà des objets du framework. Je vais vous prendre un exemple tout bête, c'est par exemple ici l'objet, on va dire FileInfo. Alors FileInfo, j'aime bien parce que c'est un objet. Donc je vais appeler ça myFile, que l'on va instancier avec le mot-clé new. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer une nouvelle instance en mémoire de la classe FileInfo, qui devient donc un objet. Et cette classe, eh bien, on va lui donner un chemin, c'est anti-slash temp anti-slash mon fichier. Et cet objet MyFile que j'ai maintenant à ma disposition, vous allez voir qu'il a pas mal de choses. Donc on l'a déjà vu ça, il y a des méthodes et des propriétés. Alors tout ce qui est propriété, c'est par exemple création de date, création de time UTC, etc. Ce sont des choses que l'objet FileInfo, qui s'appelle MyFile, contient en lui-même et que je peux récupérer. Ce sont des informations, ce sont des propriétés. Donc création de time, vous voyez que c'est quelque chose que je peux récupérer, c'est une date. Je peux récupérer le nom de son répertoire où il est stocké, je peux récupérer son extension, son nom complet, je peux récupérer pas mal d'informations, est-ce qu'il est en readonly, etc. Et après, nous avons aussi des méthodes qui sont donc des actions que va pouvoir effectuer mon objet. Par exemple, j'ai la méthode move qui va permettre, move to, qui va permettre de déplacer mon fichier d'un répertoire vers un autre. J'ai d'autres méthodes comme open qui va permettre d'ouvrir le fichier en lecture. Je peux aussi le remplacer, enfin, je peux faire pas mal de choses, qui sont donc toutes les méthodes qui sont affiliées à mon objet MyFile. Donc vous voyez, en .NET, tout est objet, et vous avez à votre disposition un ensemble d'objets déjà à votre disposition. Ce que je vais faire, eh bien, je vais créer mon propre objet ici. On va créer un objet tout simple qui serait par exemple un client. Un client, c'est un objet en .NET, et on pourrait très bien décider de créer une classe qui s'appelle la classe Customer en anglais. Donc pour ceci, je vais... sortir des braquettes de la classe programme et me mettre ici en dessous et créer ma propre classe que j'appelle toujours par le mot-clé classe au départ et après le nom de cet objet. Donc vous avez vu que nous avions le file info, ben nous allons l'appeler customer. Et j'entoure ça avec des accolades. Donc voilà, j'ai créé ma première classe, mon premier, on va dire, template qui va après me permettre de définir plusieurs clients. Mais en fait, pour l'instant, ce client, il n'a pas ni méthode ni propriété. Donc, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de créer les propriétés, donc ce qui va lui appartenir en propre. Donc, un client, ce qui lui appartient en propre, lui appartient son nom, son prénom et, par exemple, sa date de naissance. Donc, pour ça, eh bien, ce que je vais faire, je vais créer des propriétés. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on le fait directement en .NET d'une façon, on va dire, élégante, qui est un pattern, qui est ce qu'on appelle la protection des variables. Donc ce qu'on va faire, on va créer une classe, une propriété private de type string, que je vais appeler first name, qui est donc là, qui sera donc son prénom. Je vais aussi, eh bien, appeler aussi private string last name, qui sera donc son nom. Et après, je vais y stocker aussi, sous forme de date, son anniversaire. Voilà. Voilà un premier objet très basique, très simple que je vais pouvoir utiliser. Si je me retrouve ici dans la classe programme, vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur CU, vous voyez qu'automatiquement, déjà Visual Studio a reconnu que j'avais une classe qui s'appelle Customer. Ici, je vais donc appeler client 1 et je vais faire un new dessus de Customer. Et je ferme mes parenthèses. Ça, c'est l'instanciation d'un objet de type classe customer. Si vous voulez ici la classe, ça c'est le modèle, et cette ligne-là va permettre de prendre ce modèle et de l'injecter en mémoire à un endroit bien particulier dans lequel je vais pouvoir stocker eh bien, le nom, le prénom et la date d'anniversaire. Le seul hic, c'est que pour l'instant, si je fais client 1 point, eh bien, vous voyez que j'ai pas grand-chose qui remonte. J'ai trois, quatre méthodes qui sont des méthodes dont tous les objets héritent, dont on reviendra dessus plus tard. Mais j'ai ni le first name, ni le last name, ni le birthday. Pourquoi? Parce que je les ai mis privées. Et comme elles sont privées, elles ne sont accessibles que dans le bloc customer. Comment est-ce que je fais pour rendre public ces propriétés? Ce que je peux faire, c'est remplacer private par public, hein, tout bêtement. Vous allez voir qu'ici, automatiquement, elle apparaît. Mais ça, c'est pas la bonne façon de faire. Ce qu'on a tendance à faire en programmation orientée objet, c'est ce qu'on appelle, eh bien, protéger ces membres, ces variables privées, en exposant ces propriétés avec ce qu'on appelle des accesseurs. Donc, on va faire un public string first name. Et dedans, je vais faire deux choses. Je vais faire un get et un set. Le get va permettre de renvoyer la valeur que je veux et le set va permettre de prendre une valeur qui m'est donnée par quelqu'un d'autre et de l'affecter à quelque chose. Donc dans le get ici, je vais faire un return. Alors imaginez que finalement le get c'est une sorte de fonction qui renvoie quelque chose. Je vais renvoyer le first name. Et le set ici, en fait le set c'est Tommy, mais en fait le set il va vous passer en paramètre ce qu'on appelle une value. Donc ici, ce qu'on va faire, on va dire que first name va prendre la value qui m'arrive de mon input. Grâce à ça, ici, j'ai protégé ma valeur privée first name en l'encapsulant dans ce qu'on appelle un accesseur qui est first name en majuscule. Comme nous sommes en C Sharp, first name en minuscule est différent de first name en majuscule. Du coup, ici, lorsque je reviens dessus, eh bien, j'ai bien mon client 1 qui a une propriété first name. D'accord? Alors, deux, trois choses à connaître là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que, première chose, vous voyez qu'ici, j'ai une classe un petit peu particulière qui donc mis le F en minuscule, ici, et le N en majuscule. Et ici, j'ai une autre classe particulière qui est le F en majuscule et le N en majuscule. Eh bien, ici, ce n'est pas très compliqué. Lorsqu'on en a affaire à des variables privées, on a ce qu'on appelle utiliser le camel casing. Le camel casing, c'est quoi? C'est d'écrire une variable avec la première lettre en minuscule et la première lettre de chaque mot que compose le mot en majuscule. Vous voyez qu'ici, first name, en fait, il y a deux mots, il y a first et name. Le premier va être écrit en minuscule et le deuxième va être écrit en majuscule, pardon. Et le Pascal casing, qui est utilisé pour tout ce qui est public, c'est toutes les premières lettres des mots que compose le mot complet sont écrits en majuscule. C'est pour ça qu'ici j'ai un F en majuscule. Donc ça, c'est une bonne pratique à connaître. Lorsque l'on écrit des variables privées, on les écrit en camel casing, première lettre en minuscule. Et lorsque l'on a des variables ou des accesseurs en public, eh bien on les écrit en Pascal casing avec la première lettre en majuscule et l'ensemble des lettres que compose le mot en majuscule. Donc ça, c'est une bonne chose à connaître, c'est assez pragmatique dans l'approche. Alors les programmeurs en C++ souvent préfixaient les variables privées avec un underscore. À vous de voir comment vous voulez faire, il n'y a pas de problématique particulière. Moi, je préfère écrire en camel casing, en Pascal casing. Bien. Et après, ce que je peux faire, eh bien, c'est réitérer la chose pour last name et pour birthday. Donc, je vais vous le faire. Donc, je vais faire vite fait un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, ça va être last name. Hop. Attention qu'en fait, du copier-coller, hein, de bien vérifier que vous n'êtes pas trompé. Et après, je vais faire la même chose pour birthday. Attention, birthday, c'est une date. Hein. Birthday. Et birthday, ici, je prends ça, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc ici, j'ai vraiment quelque chose de carré. J'ai protégé mes variables. Et lorsque maintenant je les appelle, ici, vous voyez que je peux récupérer, eh bien, le birthday, le first name ou le last name. Je peux le récupérer et je peux aussi y insérer des données. Donc ça, c'est très important. Alors, ce que je vous propose aussi de faire, lorsqu'on fait la programmation orientée objet, on essaye de documenter correctement notre code. Et ici, je vais faire un triple slash, 1, 2, 3, et automatiquement, ça m'écrit ce qu'on appelle un summary. Et ce summary, je peux y mettre la description de ma propriété. Alors, c'est vrai que first name, c'est assez bien décrit, mais je pourrais très bien dire ici, nom du mon client. Et automatiquement, ici, lorsque je vais appeler ici client 1 point, que je passe sur first name, j'ai bien marqué nom de mon client dans le commentaire ici qui remonte de l'intellisense. Alors en fait, le first name, c'est même pas le nom, c'est le prénom, pour être très, très exact. Voilà. Prénom de mon client, nom de mon client. Et ici, ça serait la date d'anniversaire. Date de naissance. Bien. On peut simplifier cette écriture. Je vais vous donner une astuce que vous allez pouvoir souvent utiliser. C'est au lieu d'écrire la variable privée et l'accesseur avec le get et le set, ce qu'on peut faire, alors je vais faire ça pour, on va dire, pour l'adresse par exemple, pour la ville. Alors, supposons que je veuille écrire une ville, eh bien, au lieu d'écrire la variable privée puis la variable publique, ce qu'on peut faire, on peut directement écrire ici public, donc string. City. Et après, ce que je vais mettre ici, je vais directement mettre un get, point virgule, un set, point virgule. Okay? Donc, ça ressemble à ce qu'on a vu, sauf que vous voyez que le get et le set, je n'ai pas renseigné le return et le set, je n'ai pas mis la valeur, j'ai directement mis un point virgule ici, et je n'ai pas mis le private city. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'avec ce code-là, automatiquement, le compilateur, lorsqu'il va générer votre code, il va, eh bien, réécrire ce code-là. Et il va générer une propriété qui s'appellera underscore city, qui sera la variable privée. C'est juste une facilité d'écriture. Ça vous permet d'aller plus vite dans l'écriture de votre code. Mais au final, ce qu'il y a derrière, il faut bien se rendre compte qu'il y a bien une variable privée qui sera générée au runtime. Automatiquement, ici, vous allez voir que effectivement, j'ai bien ici client1.city. Pas de souci. Bien, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va renseigner ce client. Client1.city prend par exemple Toulouse. Hein. Client1.firstname prend Sébastien. Et client1.lastname prend Pertus. Voilà. Et après, ce que je peux faire, c'est écrire sur ma sortie console, .writeLine. Je peux écrire mon client. Deux points. Donc là, je vais faire un string.format, hein, 0 espace 1 espace ville, deux points, espace 2, virgule. Donc ça sera client 1 point first name, client 1 point last name, client 1 point city. Ok, j'oublie pas de mettre un console. Point readline pour éviter de sortir. Et lorsque j'exécute, alors je vais ici mettre un point d'arrêt. Voilà. Lorsque j'exécute mon code, eh bien j'écris, donc je déclare une nouvelle instance de mon customer, donc qui sera stockée dans un endroit sur la mémoire. Je peux donc y affecter des propriétés. Vous voyez qu'ici, automatiquement, city est rempli et je peux l'écrire sur ma sortie console. Pas de souci. Mon client, Sébastien Pertus, ville Toulouse. Et je peux maintenant, grâce à ça, eh bien, déclarer autant de clients que j'en ai envie. Donc ici, je pourrais très bien faire ici customer numéro 2, client numéro 2, et renseigner un nouveau client, qui serait donc non pas à Toulouse, mais à Paris, par exemple, qui s'appellerait Jean-Sébastien, qui est mon collègue Dupuis. Quand même pas écorcher son nom, le pauvre. Voilà. Et à ce moment-là, je peux écrire autant de clients que dont j'en ai besoin, etc., etc. Nous avons vu ici, eh bien, la déclaration, la création d'une classe et la construction en mémoire de deux objets. Mon premier client qui sera stocké à un endroit et mon deuxième client qui sera stocké à un autre endroit. Et après, ce que je vais faire ici, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, vous allez voir ce que je vais collapser ici les zones pour qu'on en voie un petit peu plus sur l'écran. Ce que je peux faire ici, c'est maintenant déclarer une méthode. Donc, vous savez que les méthodes, eh bien, ce sont des actions que peut faire mon objet. Et je pourrais très bien faire ici, par exemple, public string. Donc, c'est une méthode qui va renvoyer une chaîne de caractères et que je vais appeler get complete name. Parenthèse, parenthèse. Alors, attention, une méthode est toujours suffixée par des parenthèses. Soit à l'intérieur, ici, j'ai peut-être potentiellement des arguments, soit j'ai rien, mais il y a toujours des parenthèses, parenthèses. Et ici, dans ce bloc de code, je vais écrire ce que fait ma méthode. Et ma méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va renvoyer un string point format de ce que j'ai mis là-haut. On va prendre juste ça. Voilà. Hop, string point format de ça. Et voilà. Alors du coup ici, ce n'est pas client 1, c'est directement l'appel de mes propriétés. Voilà. Donc ici du coup, je vais quand même mettre un petit commentaire, renvoie le prénom, nom et ville. Et du coup ici, vous allez voir que maintenant, dans console.readline, je peux directement faire un client 1 point, et vous voyez qu'ici, j'ai ma méthode qui apparaît, getCompleteName, qui renvoie le prénom, le nom et la ville. Et j'oublie pas de mettre des parenthèses parce que c'est une méthode que j'appelle. Et quand on appelle une méthode, même si elle ne prend pas d'argument, on termine par des parenthèses. Et je peux faire pareil pour mon client numéro 2. Voilà qui est fait. J'exécute et ça fonctionne. Donc j'ai vraiment deux instances en mémoire de ma classe client. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre, le concept objet qui va vous permettre après de, eh bien, d'écrire des programmes complets et qui va permettre d'avoir vraiment quelque chose de très très structurant. Pour terminer, je vais faire quelque chose dont j'ai l'habitude, que j'ai l'habitude de faire. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai une classe Customer, mais je suis dans mon fichier programme.cs et moi je suis plutôt partisan, eh bien, d'avoir un fichier C# par classe. Donc moi, ce que j'ai plutôt tendance à faire ici, c'est de rajouter ici un nouveau fichier, add new class, que j'appelle customer. Vous voyez automatiquement ce qui va se passer, il va me rajouter ici un nouveau fichier. Et ce fichier ici, c'est déjà un template, un stub, dans lequel il m'a déjà créé une classe qui s'appelle customer. Donc elle vient un peu en conflit avec celle que j'ai créée préalablement. Et ce que je vais faire, je vais juste faire un copier-coller. Donc couper, CTRL X, et je vais la coller ici, coller, CTRL V. Voilà. Bon, je préfère plutôt avoir quelque chose comme ça. Ça me permet d'être beaucoup plus cohérent et d'être beaucoup plus maintenable dans mon code. Donc ici, évidemment, le code continue à fonctionner sans problème. Je pense qu'on a vu à peu près tout pour ce module-là. Alors, c'est vraiment important de comprendre comment fonctionnent des objets en point net, parce que c'est vraiment la base du langage de programmation C#. C'est hérité de langages comme C++, où vraiment l'objet était au centre de la programmation. Comprendre ce que c'est qu'une classe. Une classe, c'est vraiment le modèle dans lequel on va décrire les propriétés et les méthodes. C'est bien important de comprendre que les propriétés sont des choses qui appartiennent à mon objet et que les méthodes sont des actions qu'il peut mener. Et lorsque je déclare avec le mot-clé new une nouvelle instance, et bien automatiquement en mémoire, il va réserver un espace pour une instance de mon objet. Et chaque fois que je fais un new, en fait, il va créer des blocs en mémoire. Et donc, je pourrais avoir autant de clients que ce dont j'en ai besoin. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un nouveau cours MVA.